Bonjour et bienvenue à cette émission Parole au présent. Mon nom est Claude Julien. Je suis en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Francine, peut-être qu'avant qu'on fasse lecture de ce texte qui est au chapitre 14, vous aimeriez faire une brève présentation.
Oui, tout simplement pour situer nos auditeurs, nos auditrices. Aujourd'hui, tous les textes de notre péricope concernent les pratiques de la table. Nous serons donc invités à table. C'est une unité littéraire et thématique très forte que Luc a construite dans son chapitre 14, des versets 1 à 24. Jésus prend un repas, et c'est le repas du sabbat, chez un pharisien. Et dans ce contexte, il va faire une guérison, il va donner deux enseignements et il va raconter la parabole des invités qui se dérobent à la dernière minute. Alors, la liturgie d'aujourd'hui a retenu le contexte du repas et les deux enseignements.
C'est dans l'Évangile selon saint Luc, au tout début du chapitre 14e. Un jour de sabbat, Jésus était venu prendre le repas chez un chef des pharisiens. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on pourrait avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « cède lui ta place, et tu irais plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, « Mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. » Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, « Quand tu donnes un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi t'inviteraient en retour, et cela te serait rendu. Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'ont rien à te rendre. » Cela te sera donné en retour à la résurrection des justes. Alors, Francine Robert, comme vous disiez, ces deux enseignements sont propres à Luc.
Oui, tout à fait. Et de toute façon, le contexte du repas est plus fréquent dans l'Évangile de Luc. Alors, il y a ces deux textes-ci, mais il y a plus de repas chez Luc que chez Matthieu, Marc ou Jean. On peut penser au reproche qui est fait à Jésus de manger avec des pécheurs, qui est présent ailleurs mais redoublé chez Luc et qu'on entendra très bientôt dans la liturgie qui commence le chapitre 15 de l'Évangile de Luc. Il y a bien sûr le repas chez Lévi qui chez Luc devient un festin, chez Zachée qui est un texte propre à Luc et le repas chez Marthe et Marie que vous nous avez commenté récemment qui est aussi un texte propre à Luc. Et donc cette pratique du repas chez Jésus, elle manifeste non seulement son ouverture à tout le monde, mais aussi elle est utilisée, cette pratique chez Luc, pour mettre en valeur un aspect majeur de la bonne nouvelle, c'est-à-dire nul n'est exclu du salut et de l'amour de Dieu. On pourrait dire, en se rappelant qu'on est au Proche-Orient ancien, que le repas, c'est une pratique de communion fraternelle. Et donc, Jésus en fait une pratique largement inclusive, c'est-à-dire qu'il partage sa table avec tout le monde. Et en ce sens, c'est une pratique qui l'oppose à celle des pharisiens, qui est une pratique exclusive, c'est-à-dire qu'ils choisissent très bien avec qui ils vont partager la table. Et ça se fonde évidemment sur des considérations de gens qui se voient comme des justes ou supérieurs aux autres, par exemple au plan social. Je signale aussi, parce que les gens ont peut-être été surpris, que la pratique d'inclusion de Jésus, ça inclut les pharisiens. Et pas seulement les pécheurs ou les femmes. Ça inclut quiconque veut bien faire table commune avec lui. Luc est le seul à mentionner que des pharisiens invitaient Jésus à manger avec eux. C'est trois fois dans Luc. Ici, en 11:37 et en 7:31, qui était le récit de Simon, le pharisien, avec la pécheresse.
Alors que chez les autres évangélistes, on ne voit pas ça.
Jamais. Et on ne voit jamais non plus les Sadducéens inviter Jésus dans Luc non plus. Donc, on doit admettre que les pharisiens, que l'on considère comme les ennemis de Jésus, ne sont peut-être pas tous à mettre dans le même sac, et que certains étaient intéressés à lui et à l'entendre, même s'ils n'étaient pas nécessairement d'accord avec tout ce que Jésus pouvait dire ou faire. Alors, c'est sûr que si le repas a une valeur symbolique chez Luc, l'acte même du repas, a fortiori, les enseignements concernant le repas chez Luc vont prendre beaucoup d'importance. Alors, on est prévenu ici que nos deux enseignements, le premier, je rappelle, sur le comportement des invités qui cherchent à prendre une bonne place, le second sur qui inviter à notre table, ces deux enseignements qui sont un peu considérés comme de type sapientiel, hein, comme des textes de sagesse, des conseils sur la manière de se conduire, ils sont introduits par la mention « Jésus leur dit une parabole ». Donc, on est prévenu. Il faut pas prendre ça au premier degré. Il faut pas seulement s'en tenir au premier degré de la compréhension. C'est une parabole, ça renvoie à plus. Nos deux enseignements ont le même cadre, donc ça se passe dans le même repas. Et ils ont aussi la même structure, hein, les deux, une petite introduction, deux exemples. D'abord, l'exemple à ne pas suivre et ensuite l'exemple à suivre. Et chacun des deux courts enseignements a une conclusion à portée théologique. Alors, on voit que c'est très retravaillé ici par Luc, à partir probablement de sources traditionnelles sur le Jésus historique. Donc, on pourrait y aller avec le premier enseignement?
Oui, ben oui.
Oui, il est question de savoir qui aura les bonnes places, hein, à table. Donc, si c'était, ici Jésus parle d'une noce, qui est un repas un peu festif, solennel, et dans d'autres repas un peu solennels, comme possiblement ce repas dans lequel Jésus est lui-même un convive le jour du sabbat. On pouvait servir dans ces repas un peu plus élaborés, un peu comme nous, un apéro, quoi, un verre de vin, quelques hors d'œuvre qui se prennent debout dans une autre pièce avant de passer dans la salle à manger. En tout cas, c'est ce que François Bouron suggère dans son commentaire sur l'Évangile de Luc. Ça donne l'impression que chacun pouvait choisir sa place. Vraisemblablement, la place du maître de maison est déjà fixée, la place de l'invité d'honneur ou des invités d'honneur aussi, et les autres, ben, s'assoient un peu comme ça vient. Alors, qu'est-ce que Jésus observe? Probablement que certains peuvent vouloir
jouer du coude.
Ouais, c'est ça. Ouais. Hein, se pousser un peu en avant sans que ça paraisse trop quand même en y mettant les formes. C'est un comportement qui peut exprimer la conscience non dite mais claire pour tout le monde qu'il y a des différences de niveau dans le groupe. Ça peut être des différences de niveau social sur une base financière, certains plus riches, certains plus pauvres, ou des différences de métier mieux considérées que d'autres, ou de prestige religieux. Certains, si on est dans un groupe pharisien ici, par exemple, considérés comme plus saints que d'autres, ou connaissant mieux la Torah que d'autres. Donc, il y a tous ces petits critères qui font que il y en a qui expriment sans le dire « Écoute, je vaux mieux que toi, tasse-toi un peu, laisse-moi m'asseoir là. » Et cette attitude, donc, qui est au bord du mépris, ou en tout cas, à tout le moins, de l'autocongratulation sur le dos de l'autre, c'est une attitude que Jésus dénonce ici. Il n'est pas le premier, d'ailleurs. Hein? Vous connaissez peut-être le Proverbe 25.
Ben oui, je peux vous lire Proverbe, le chapitre 25, c'est ça. « En face du roi, ne prends pas de grands airs, ne te mets pas à la place des grands, car mieux vaut qu'on te dise « monte ici » que d'être abaissé en présence du prince. » Jésus reprend, probablement connaissait sans doute ce proverbe.
Oui,
quoi,
hein? C'est une sagesse courante, c'est finalement. Tellement courante qu'on la trouve aussi dans la sagesse rabbinique au début du deuxième siècle, vers 110. Très semblable. « Éloigne-toi de la place qui te revient de deux ou trois sièges et attends qu'on te dise « monte plus haut ». Sinon, on pourrait te dire « descends plus bas ». Alors, à première vue, on pourrait se dire, ouais, c'est une sorte de stratégie, au fond. Mais faut bien voir que c'est humiliant, ça le serait aujourd'hui, ça l'est encore plus au Proche-Orient ancien. C'est humiliant de devoir céder sa place de façon obligée, là, c'est-à-dire...
Sûrement encore aujourd'hui,
ouais.
Bien sûr.
Oui, certainement. C'est considéré comme une atteinte à la dignité. Ouais. Hein. Mmh. Alors, c'est pas juste humiliant subjectivement, c'est humiliant publiquement. Parce que tu es comme déconsidéré aux yeux de tout le monde. C'est comme si l'autre te disait, t'as un petit peu surestimé ta valeur, mon cher.
C'est ça.
Alors, puisque c'est présenté ici comme une parabole, on pourrait dire que ce conseil de Jésus et cette critique des attitudes concernent probablement des pratiques qui débordent la table, là, qui peuvent correspondre à d'autres situations équivalentes dans la vie, aussi banales que des places à table ou des situations plus importantes et donc blessantes, parce qu'elles expriment publiquement un certain mépris. Hein, c'est ça qui est visé dans le reproche de Jésus. D'ailleurs, ailleurs, il va reprocher aux pharisiens et aux scribes d'aimer occuper les premières places dans les synagogues, comme si, bon, eux, ils sont plus justes, donc plus saints, et donc ils peuvent être plus proches de la Torah, qui est à l'avant du rouleau de la Torah. Alors, voyez, ça s'oppose, quand on compare ça à l'ensemble des attitudes de Jésus de Nazareth, ça s'oppose à son éthique d'accueil et de respect que Jésus manifeste face à chacune des personnes, hein, et que je rappelais tout à l'heure en parlant de l'importance des repas et du fait qu'il fasse communauté de table avec tout le monde. Et il le fait pour bien manifester que ça, cet accueil et ce respect, c'est la bonne nouvelle qu'il annonce, c'est-à-dire que ça dit quelque chose de Dieu lui-même. Et donc, c'est plus théologique que pratique, je dirais. Ça déborde de beaucoup le niveau pratique. D'autant plus que, vous n'êtes pas sans le savoir, le festin, la table abondante qui rassemble beaucoup de gens, c'est une image classique du règne de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, fréquente chez les prophètes, aussi dans les évangiles. Je pense au texte de la semaine dernière, « Alors on viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi, prendre place au festin dans le règne de Dieu. » Donc, cette idée des agapes qui nous attendent à la fin des temps, c'est aussi une image. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va passer l'éternité à manger et à boire, mais ça devient...
C'est une très belle image.
Oui, hein, c'est une image à la fois d'abondance et de communauté, hein, de partage commun et de fête. On la retrouve, cette image du repas pour le règne de Dieu, tout de suite au verset 15, qui suit directement le texte d'aujourd'hui. La liturgie a coupé juste avant, je vous le lis. Tout de suite après le deuxième enseignement de Jésus, un des convives qui est au repas, donc à table avec lui, va dire à Jésus, « Heureux celui qui prendra le repas dans le règne de Dieu. » Donc, on voit bien que c'est une image classique. Il paraît même que c'était un thème discuté parmi les rabbins, quelle va être la hiérarchie des places à cette table du règne de Dieu. Et bien sûr, alors ça joue sur l'appréciation que Dieu fait de chacune des personnes. Et si je suis quelqu'un de bien ou je me vois comme quelqu'un de bien, je présume que Dieu va me donner une bonne place. Hein. On retombe ici dans le même travers dénoncé par Jésus, ce qu'on retrouve dans sa parabole du pharisien et du publicain au chapitre 18. Hein. Le pharisien qui vient en avant du temple et qui rend grâce à Dieu d'être comme il est, jusque-là, pas de problème. Mais qui sent le besoin de grimper sur les épaules de l'autre pour se sentir meilleur en disant « Je te rends grâce de pas être comme lui », lui étant le publicain qui est resté à l'arrière. On sent bien ce manque de générosité dans le regard qui est porté sur l'autre. Hein. Il pourrait se satisfaire d'être quelqu'un de bien. Non, il grimpe en plus sur les épaules de celui qui est un pécheur. Donc, voyez, cette auto-glorification aux dépens de l'autre, elle est contraire à la dynamique du règne de Dieu tel que Jésus la présente. Dans le règne de Dieu, il n'y a pas de hiérarchie, mais il y a abondance de place, abondance de nourriture, si je reste dans l'image du repas, pour tout le monde. On est dans la logique de la grâce et non dans la logique du mérite. Alors, on comprend la portée de la finale que Jésus met à cette parabole. « Qui s'élève sera abaissé. » Qui s'abaisse sera élevé, qui rejoint ce qu'on entendait la semaine dernière, des derniers seront premiers, des premiers seront derniers. Ça rejoint aussi le Magnificat que vous connaissez bien.
Disperser les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et il a élevé les humbles.
Ouais. Mmh. On voit bien que le Magnificat de Marie est dans la même dynamique ici. Et c'est une dynamique que Luc soigne avec beaucoup d'attention parce qu'elle traverse tout son évangile. Et d'ailleurs, le Magnificat de Marie continue dans la même ligne des renversements. Hein. Ça renverse la logique du plus fin ou la logique du plus fort.
C'est ça, il comble de bien les affamés et il renvoie les riches les mains vides.
Oui, et ici, on est proche du deuxième enseignement que Jésus donne dans notre péricope d'aujourd'hui. C'est un écho direct de ça et c'est un écho qui fait choc. Hein. Il s'adresse à son hôte pour l'appeler à inviter non pas ceux qui vont l'inviter en retour, mais ceux qui n'auront pas les moyens de l'inviter en retour. Sous-entendu, donc, ceux que personne n'invite. Invite à ta table les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Et c'est pas une liste fermée, c'est donné comme exemple hein, de ceux que personne n'invite jamais et qui n'ont les moyens d'inviter personne. Hein. C'est la même liste qu'on va trouver dans la parabole qui vient juste après notre texte. Je le rappelle, la parabole du festin auquel les invités décident de ne pas venir à la dernière minute là parce qu'ils sont trop occupés. C'est une parabole qui est assez bien connue, je pense. Et le maître va envoyer ses serviteurs invités, et là, les mêmes groupes, la même liste, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Donc, va inviter les derniers au plan social. Ou va inviter, si je prends le langage du verset précédent, va inviter ceux qui sont abaissés. Hein, je les élève en les invitant à ma table. Alors, bon, ça fait choc, hein, je sais pas vous, mais moi, j'ai l'habitude d'inviter mes amis, ma famille.
Ah oui, c'est surprenant, c'est sûr.
C'est contraire aux habitudes sociales. On reste dans le registre d'une parabole. Je rappelle que c'est pas nécessairement à prendre au premier degré. Ça veut pas dire que le premier degré a pas de sens non plus, par contre. Bien sûr, c'est naturel d'aimer ceux qui nous aiment, d'inviter ceux qui nous invitent, de fréquenter nos proches et nos semblables. Ça crée un choc. Hein? C'est le même genre de choc que provoque la pratique de Jésus. Il mange avec des pécheurs, il prend des femmes comme disciples, il soigne un malade le jour du sabbat. Donc, il fait choc, il inverse les priorités habituelles. Au fond, il fait du dernier le premier dans ses préoccupations. C'est donc toujours la même bonne nouvelle du Dieu qui élève ceux qui sont abaissés, qui veut accueillir tout le monde, qui se soucie des laissés pour compte. Alors ici, c'est comme si Jésus disait à son hôte, agis comme Dieu, agis comme le Dieu dont j'essaie de témoigner. Hein? Et ce Dieu qui va être profilé ou suggéré dans la figure du maître du festin de la parabole suivante, là. Toujours celle donc du festin où les invités se dérobent, la figure du maître évoque Dieu. Alors, si Jésus dit dans cet enseignement de ne pas inviter d'abord ou seulement ceux qui peuvent nous rendre notre invitation, ce qu'il dit dans un langage plus contemporain, je dirais, c'est de pas fonctionner sur la seule règle de réciprocité. Du genre, je te donne, donc tu me donnes, ou tu me donneras. Ça implique, je te donne quelque chose parce que tu as les moyens de me le rendre. Ou je t'aime parce que tu m'aimes. C'est ça la règle de réciprocité, hein, qui était déjà dénoncée au chapitre 6 de Luc. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle est votre gratuité finalement? Quelle est votre grâce? Si vous prêtez seulement à ceux qui peuvent vous rembourser certainement, donc que vous ne doutez pas d'être remboursé, ben, les pécheurs aussi font ça. C'est quoi la gratuité là-dedans? Ça continue en disant « Aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc compatissants comme votre Père est compatissant. » C'est un texte que je rappelle, vous l'avez vous-même rappelé il y a quelque temps, parce que c'est majeur dans cet évangile de Luc. Donc, au fond, quand Jésus enseigne ce passage du chapitre 6, tout comme cet enseignement sur l'invitation délaissée pour compte, il nous invite à la gratuité. Donc, quelle est votre gratuité? Puisque le Dieu qu'il annonce est un Dieu de gratuité. Et on voit vraiment pas ce qu'il y a de gratuit à se faire proche de ceux qui nous sont déjà proches. un petit peu comme le scribe, par exemple, juste avant la parabole du bon samaritain, qui demandait finalement qui est assez proche de moi pour que je sois obligé de l'aimer ou pour que je l'aime. Et Jésus renverse la question. Demande-toi pas qui est ton proche, demande-toi de qui toi tu peux te faire proche, tout comme Dieu se fait proche de nous. Alors, voyez, son enseignement ici sur la table ouverte à tous va dans le même sens. Invite non pas dans l'espoir d'être toi-même invité, on se rend pas les uns les autres des bons services d'auto-congratulation, et là je fais le lien avec le premier enseignement, mais situe-toi dans la gratuité et donc invite ceux qui ne peuvent pas te le rendre et tu seras, et là on a une béatitude dans ce dernier verset, heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te rendre. C'est une béatitude dans le présent, je veux dire il y a un futur, mais faisant cela, tu seras heureux. Et ensuite, la même idée de recevoir dans l'avenir, même idée qu'au chapitre 6, votre récompense sera grande. Ici, c'est « cela te sera rendu à la résurrection des justes ». Donc, le don que tu fais maintenant à qui ne peut pas te le rendre, ce don, c'est Dieu qui te le rendra, puisque Dieu donne. Peut-être que certains ont été surpris ici de voir Jésus dire « cela sera rendu à la résurrection des justes ». Je voudrais simplement rappeler que le judaïsme avait déjà développé au temps de Jésus la foi en une résurrection, en précisant que c'est la foi en un acte de Dieu qui fait vivre avec lui ceux qui sont morts. On n'est pas là dans la croyance grecque à l'immortalité de l'âme. C'est un acte de Dieu, la résurrection. Ça faisait son chemin là, dans la foi juive depuis environ 150 ou 180 ans. C'est une foi qui n'était pas acceptée par tout le monde, mais par le mouvement pharisien, certainement oui. Sauf qu'il n'y avait pas d'unanimité. Là. Est-ce que c'est tout le monde qui va ressusciter et ensuite il y aura un jugement général, comme on voit par exemple dans la parabole du jugement de la fin des temps dans Matthieu, là, avec les boucs et les brebis? Ou d'autres disaient, non, ceux qui vont être ressuscités par Dieu, c'est les justes. C'était proche d'un courant majeur chez les pharisiens. Alors, Jésus n'est pas en train de se prononcer sur la question, est-ce que tout le monde va ressusciter ou seulement les justes? Il emploie simplement, dans sa phrase, « cela te sera rendu à la résurrection des justes », il emploie simplement une expression familière à son auditoire. Pour eux comme pour lui, ça veut dire la venue du règne de Dieu. C'est ça qui est important. Et donc, si tu agis dès maintenant dans la dynamique du règne de Dieu, en ne cherchant pas à te mettre en avant des autres comme si tu étais plus fin qu'eux, ou en invitant ceux qui ne peuvent pas te rendre, en situant dans la gratuité, tu es déjà dans la dynamique du règne de Dieu. Tu es heureux de faire ça, et encore plus dans le règne de Dieu à la fin des temps. Alors, c'est tourné à la fois vers le présent et vers l'avenir.
Merci, Francine Robert, donc professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.